Tech Histoire. J'espère que vous allez tous très très bien en cet excellent week-end. C'était un week-end de février, voilà. Donc beaucoup de choses en ce week-end. On y reviendra tout de suite ou dans un instant. Mais je vais commencer par présenter les personnes qui sont avec moi, la Dream Team du jour. À savoir, on va commencer, tiens, par on va commencer par les anciens. On va commencer par Flo. Flo, ça va?
Ça va très bien, et toi?
La forme?
La forme.
Ok, parfait. Et le retour, the comeback.
L'enfant
prodige. Greg, comment vas-tu?
Bah ça va très bien, merci.
Ça fait plaisir de te revoir.
Ouais, je suis très content. Je vois que la déco a changé et tout.
Ah oui, Radio Canu.
Ça devient cossu. C'est super.
Oh, on est pas mal, on est pas mal. On fait une super fresque dernièrement.
Ouais,
et tout,
c'est très joli, très joli.
C'est sympa. Eh ben, on va commencer tout de suite par le sommaire de cette émission. Alors pour une fois, c'est pas moi qui ai le plus bossé sur cette émission et tout. Là, j'ai pratiquement rien fait. Toi, je vais te donner la parole, Greg, puisque c'est toi qui vas commencer. Quel va être ton sujet du jour?
Alors, je voulais parler de que faire avec un jeu une fois qu'on l'a fini. Voilà. Je vais vous parler des différents challenges qui existent et qu'on peut trouver un peu partout sur Internet. Vous allez voir, c'est assez rigolo.
Voilà. Ensuite, la deuxième partie donc sera tenue par Flo. Alors, de quoi tu vas nous parler, Flo?
Je vais parler de réalité virtuelle et de MMORPG.
Voilà. Et il préserve encore un peu le mystère, je vois. Et puis, en troisième partie, donc, on sera un peu une sorte de zap actu. On verra un peu tout ce qui se passe dans l'univers de l'ère du jeu. Voilà. Donc, on discutera de tout ça. Vous pourrez réagir. Bien sûr, vous pouvez réagir même dès maintenant sur Twitter via le hashtag R du jeu. R-D-U-J-E. Ouais, je crois que je me suis pas trompé. Vous pouvez aussi aller sur la page Facebook de GameAge où vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission et bien entendu aussi sur le blog de Radio Canu où il y a aussi tous les podcasts de l'émission. Bon, voilà, je pense qu'on a fait le tour. On est pas mal là, on est pas mal.
On est bien.
Ben, on va pouvoir se lancer sur le premier sujet de Greg. Alors donc la fin des jeux. T'es prêt?
Allez, c'est parti.
Je te Hadoken.
Yes.
Hadoken.
Ça fait mal. Ça.
Attends, vas-y.
Bon, alors déjà, je vais commencer par une petite question. Est-ce que vous avez l'habitude de finir vos jeux? Alors, je parle des jeux plutôt action-aventure, on va pas parler de Mario Kart ou de Street Fighter, et pas des MMO, mais est-ce que vous terminez vos jeux, en règle générale?
En général, oui, j'essaie de les finir.
Ouais,
en général, j'aime bien.
C'est quoi le dernier jeu que t'as terminé?
Le dernier jeu que j'ai fini, je crois que c'était Elle est Noire, mais j'ai joué il y a pas longtemps.
D'accord,
ok. J'ai joué juste dernièrement. Et toi, Flo?
Et toi, Flo?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle la fin d'un jeu. Hein.
Ouais.
Mais le dernier jeu que j'ai fini, ce serait... j'ai l'habitude de les finir aussi.
Ouais.
En général, quand j'achète un jeu, c'est pour le finir. Même si des fois, je mets longtemps à le finir.
Ouais.
Le dernier jeu que j'ai terminé, c'est Dragon Age Origins.
D'accord. Pas mal.
Ouais,
c'est vrai, il a dit finir, quand tu dis finir, c'est
100%. Alors justement, j'y viens. Donc je vais commencer par les stats. Donc,
vas-y.
Il s'avère que finalement, très très peu de joueurs finissent leur jeu. Alors, est-ce que c'est dû à une tendance qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeux finalement, avant, vous aviez un jeu et puis vous n'aviez pas le choix, fallait attendre le Noël suivant pour avoir le jeu, donc vous le finissiez en long, en large, en travers. Aujourd'hui, c'est plus rare, par exemple Skyrim, les statistiques de Steam, donc la plateforme de téléchargement de jeux sur PC, il y a que 32% des acheteurs de Skyrim qui l'ont terminé. Donc c'est rien du tout.
Monumentalement long, Skyrim.
Il est très très long. Si on prend Mass Effect 3, il y a 42% des gens qui l'ont fini, Portal 47%, donc finalement il y a moins de 50% des gens qui terminent le jeu. Et quand je dis terminer le jeu, c'est juste aller à la cinématique de fin, quoi. Déjà terminer le jeu.
Les valeurs se perdent.
ça se perd
les valeurs.
Donc déjà aujourd'hui, finir un jeu en soi, c'est déjà un challenge. C'est déjà finir Skyrim, c'est de l'investissement en temps.
C'est plus de l'investissement en temps que de la difficulté.
Voilà, tout à fait. Et après, les développeurs, ils ont un peu intégré des différents trucs dans le jeu pour prolonger de manière artificielle la durée de vie. Je prends l'exemple du dernier Tomb Raider. On peut finir le jeu, le scénario, et malgré tout, vous serez à quoi 60% de finition entre guillemets du jeu, puisque derrière, il faut retrouver toutes les reliques, explorer tous les donjons. Voilà.
Un truc qu'on voyait déjà pas mal, quand même, dans les jeux de rôle à l'époque, je me souviens, où tu finissais ton jeu de rôle, mais t'avais encore pas mal de quêtes annexes.
Exactement.
Comme ça, hein.
Exactement. Donc, premier challenge, finir le jeu. Deuxième challenge, finir le jeu à 100%. Ouais. Et ça, aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus compliqué, finir un jeu à 100%.
Je pense que c'est plus facile qu'avant, dans le sens où avec Internet, on va pas être bloqué, il va nous manquer un truc, on sait pas où le trouver. Avec Internet, on saura où le trouver.
C'est cheaté.
c'est mal.
Et donc ensuite, une fois qu'on a fini le jeu à 100%, parfois il y a ce qu'on appelle le New Game Plus, enfin qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le jeu est terminé? Je prends l'exemple dans les Super Mario, vous finissez le... Alors c'est plutôt dans les jeux de plateforme qu'on voit ça, vous finissez le jeu une première fois, vous avez fini le niveau. Ouais. Ensuite, il faut refaire le jeu, le niveau une deuxième fois pour aller récupérer toutes les petites pièces. Par exemple, dans Donkey Kong, il y avait les lettres K-O-N-G qu'il fallait récupérer pour finir. Et ensuite, souvent, il y a un troisième challenge qui consiste à finir le niveau le plus rapidement possible. Voilà. Et donc là, on en arrive à mon propos, qui est le speedrun. Donc le speedrun, c'est une tendance qui s'est développée ces dernières années, qui est devenue même une compétition, où en fait, une fois que vous avez terminé le jeu en long, en large et en travers, vous pouvez vous lancer dans les différentes catégories que je vais vous présenter, dont la première, le speedrun. Donc le speedrun, en quoi ça consiste? C'est tout simple, c'est finir le jeu le plus rapidement possible. Par exemple, petite colle, est-ce que vous savez quel est le record du monde du speedrun pour Super Mario Bros. Sur NES? Voilà, en combien de temps le record du monde... Combien de temps il a mis pour finir le jeu?
Je crois que c'est moins de 5 minutes.
Ouais, exactement. C'est ça, c'est 5 minutes. Ce qui est plutôt pas mal, déjà.
Il truche. Hein,
c'est honnête.
Je sais pas si truche. Donc, alors parfois, il y a le speedrun avec les bugs et le speedrun sans les bugs. Ouais. Forcément, sans les bugs, ça va moins vite. Quelques durées, quelques records. Par exemple, Metal Gear Solid 5, le dernier qui est sorti, là.
Ouais.
4 minutes.
En 4 minutes?
4 minutes pour finir le jeu. Alors là, clairement, il y a exploitation d'un bug.
Ouais, donc les bugs, en fait, c'est des défauts qui sont pas prévus à la base dans le jeu, en fait, et par les développeurs. Et puis, les joueurs, ils vont tirer profit, en fait, de cette anomalie pour finir le jeu plus vite.
Alors après, est-ce que c'est un bug non voulu ou voulu? Par exemple, vous commencez le jeu, vous tombez de la falaise, boum, vous tombez devant le boss de fin, hop, vous le tuez. Ça y est, boum, 4 minutes, quoi. Super Mario Bros. 3, 3 minutes, pour le coup.
3 minutes.
Dark Souls 2. 20 minutes.
20 minutes?
Et sans équipement.
Ouais, parce que j'avais déjà vu un speedrun, il fallait peut-être une petite heure. Mais 20 minutes.
Ouais. Wow. Non, c'est balèze. Et du coup, alors je vais parler d'une asso, que vous pouvez aller voir sur YouTube ou sur Internet. Donc l'association s'appelle SGDQ, pour Speedrun Game Quick. Et en fait, c'est une association qui récolte des fonds pour la lutte contre le cancer. Et régulièrement, ils se réunissent et ils se lancent dans des speedruns et ils se fixent un challenge en se disant voilà, on va essayer de finir le jeu en tant de temps, et ils récoltent des fonds comme ça. C'est plutôt super sympa. Leurs vidéos sont vraiment très très bien foutues.
Tu connais, toi, Flo? Donc, je crois, tu m'en as déjà parlé, non?
Oui, je t'en ai déjà parlé. Deux fois par an, ils organisent des gros événements, des marathons de speedrun sur une semaine entière.
Exactement.
Ouais, c'est suivi.
Ils récoltent des dons pour la prévention du cancer.
Et pareil, ils essayent d'exploiter des bugs. Par exemple, le dernier en date, dans Super Mario Bros. 3, en fait, ils ont déclenché un bug qui a lancé Super Mario Bros. 1 sur la même cartouche.
Ah ouais.
Alors bon, après, il y a des trucs techniques que j'arrive pas à expliquer, mais c'est assez hallucinant.
Hein.
Donc le speedrun. Un des premiers speedruns auxquels vous avez peut-être tous participé sans le vouloir, c'est le speedrun de Resident Evil 2. Alors c'était pas vraiment un speedrun, c'était, vous rappelez, si vous finissiez le jeu en moins de 2h30, sans sauvegarder, sans utiliser de spray, et en niveau normal, vous déclenchiez du coup un bonus à la fin qui permettait de récolter, je crois, une arme illimitée, une sulfateuse. Donc ça, c'était pour le plus connu. Maintenant, dans les moins connus, déjà, est-ce que vous en connaissez des petits challenges à se fixer quand on a fini le jeu, qu'on le connaît vraiment bien, une manière de jouer différemment à son jeu une fois qu'il est terminé, sans connaître.
Vas-y, à toi l'honneur, Flo.
Une manière de jouer différemment. On peut le finir jouer en se mettant des handicaps, mais.
Ouais, exactement. Alors, parmi les handicaps, il y en a un qui s'appelle le Tyson mode, entre guillemets, dans Doom. En fait, qui consiste à se mettre en mode ultra violence et à finir le jeu uniquement avec le poing. Enfin, les points, un flingue ou la tronçonneuse, et le but, c'est de tuer tous les ennemis. Donc, c'est pas de courir comme un taré pour aller à la fin du niveau sans se faire choper. Non, il faut tuer tous les ennemis
à la main, quoi,
au point. Alors, j'ai testé pour vous. J'ai testé pour vous le mode Tyson en ultra hardcore dans Doom. C'est juste impossible, quoi.
Et en pourtant, fait, il faut ça. Alors, je le dis, t'es pas une bille en jeu. Alors, FPS, donc jeu à la première personne, donc où on voit. Ce que voit le héros, tu te défends plutôt pas mal.
Et Doom, j'avoue, je l'ai bien torché en long, en large et en travers, mais là, c'est simple, premier ennemi que tu croises, il te démonte.
Ah mais oui, mais clair.
Tu comprends rien. C'est super chaud, quoi.
Tu vas au point, et il y en a qui arrivent à le faire.
Il y a des vidéos sur internet, vous tapez UV Tyson et vous voyez les mecs, c'est vraiment du haut level, quoi. C'est vraiment du haut level.
Ils connaissent par cœur le jeu.
Il faut connaître par cœur le jeu. Ensuite, on a un mode qui s'appelle le no-kill. Mm-hmm. Je ne sais pas si vous connaissez cette tendance dans les jeux vidéo. Ouais.
C'est essayer de ne pas tuer.
Exactement, exactement. Donc elle est très développée dans les jeux, d'infiltration type Splinter Cell ou Hitman. Mm-hmm. Parce que là, ça fait clairement partie du jeu d'infiltration. Quoi, mais il y a un YouTuber qui s'appelle Enyd, E-N-Y-D, qui a décidé de finir Skyrim en hard mode sans tuer personne.
C'est possible, ça.
Bah, tu te dis comment c'est possible, parce que forcément il y a des boss à un moment donné dans des donjons. Et allez voir, c'est juste impressionnant. Le gars a fini Skyrim sans tuer personne.
Et sans les boss. En fait, il passe son temps à fuir.
Bah, à fuir ou pas, mais en tout cas, c'est. Voilà, donc il y a la tendance du no-kill. Alors, l'autre tendance que je qualifierais de à poil. C'est jouer à poil. Alors pas vous devant votre télé à poil, enfin ça,
le gros challenge.
Ça peut se faire, mais c'est dans le jeu. Par exemple dans WoW, dans World of Warcraft, y a un YouTuber très connu, Manitwin, tu dois connaître, qui s'amuse à finir des donjons complètement nus. En fait, son personnage n'a pas d'équipement, il est intégralement nu. Et
donc les armures, ça permet d'avoir des points, d'être plus costaud, d'encaisser plus de dégâts, des choses comme ça.
Et ça augmente le challenge. Parce qu'effectivement, bah, moins d'armure, donc...
Plus de difficultés.
Hein. Exactement. Et pareil, dans Skyrim, il y a un autre YouTuber qui s'est fini Skyrim en slip, quoi.
c'est balèze, ouais.
Non, c'est technique.
Moi, je sais que j'avais vu ça dans le jeu Kingdom Hearts, je me souviens, où le gars s'était débrouillé pour prendre le moins de niveaux possible, parce que bah, dans les jeux un peu de rôle... On fait évoluer son personnage et donc il acquiert de nouvelles compétences. Lui, il avait fait en sorte de finir le jeu avec le moins de niveau possible. Donc, il affrontait des boss, genre les boss super cachés et tout. Il les affrontait avec un niveau minimal. C'est très, très, très impressionnant quand t'as essayé le jeu et que tu vois que toi, avec ton équipe en masse, t'as galéré. Bah, lui, il arrive, il a rien du tout. Et il le défonce, quoi.
J'avais vu ça sur Final Fantasy VII aussi. Le mec qui finissait le jeu, il était même pas niveau 30.
Et pourtant que dans les Final Fantasy, parfois t'es niveau 100 et t'arrives pas à buter le boss de fin. Quoi.
Les boss ils défoncent et lui, le gars, il a un timing parfait, on sait pas comment ils font. Ouais.
Très rapidement, autre petite tendance, donc il y a des vidéos très, très drôles sur internet, c'est de refaire le jeu, mais pas avec la manette, avec un autre accessoire. Donc par exemple, la guitare de Guitar Hero.
Ça se fait, donc, je rêvais.
Il y a un YouTuber français qui s'appelle Kirby54, qui fait des petits challenges comme ça. Alors notamment, on le voit jouer à Street of Rage ou à Dark Souls avec sa guitare de Guitar Hero. Donc pareil, c'est hyper technique parce qu'il faut utiliser la reconnaissance de mouvement de la guitare pour avancer. Vous tapez avec les touches de la guitare. C'est vraiment, vraiment balèze. Mais pour vous dire que voilà, il y en a qui sont motivés. Il y en a un autre qui joue à Mortal Kombat avec un tapis de danse.
Tu te fais déchirer par un gars qui joue sur un tapis de danse.
Mais c'est plutôt pas mal. C'est plutôt
ça doit mettre mal, ça.
Allez.
La fierté du joueur.
Deux petites dernières. Est-ce que vous connaissez le limbo mode?
Limbo, c'est passer en dessous des barres. Alors,
ça peut être un concept. Jouer au limbo.
Non, là, je vois pas, toi, Flo.
Non, c'est bien.
Donc, limbo, c'est un jeu PC entièrement en noir et blanc.
D'accord.
Et en fait, qui utilise dans son gameplay justement le fait qu'il n'y ait pas de couleur dans le jeu. Mmh. Et en fait, il y a des joueurs PC maintenant qui s'amusent à baisser au minimum toutes les caractéristiques graphiques du jeu et de passer le jeu en noir et blanc pour augmenter la difficulté du jeu. Donc, notamment le H1Z1, le jeu de zombies là, de Sony, je ne sais pas si vous connaissez, une espèce de MMO de zombies, voilà, il y en a qui s'amusent à y jouer entièrement en noir et blanc pour
surtout sur les jeux d'horreur, les
ça
trucs comme
encore
ça,
plus
c'est,
flippé,
c'est
ouais,
super dur en
où
fait.
Tu vois rien. Et un autre, Lobos Junior, un youtubeur, pareil, Dark Souls, encore et toujours Dark Souls. En fait, Dark Souls, c'est un des jeux les plus durs aujourd'hui qui existent. C'est vraiment du hardcore gaming, c'est du die and retry. Enfin, on meurt et on apprend de ses erreurs pour progresser. Et ben, des gens qui l'ont entièrement fini, qui trouvaient pas ça assez dur, du coup, maintenant ils jouent avec leur guitare et en noir et blanc.
Mais c'est vrai que c'est un jeu qui est très très bien foutu, hein, parce que c'est vraiment un jeu avec plein de challenges, mais voilà, justement, on peut le finir. Et alors moi, pour ma part, comme je le disais, vous pouvez regarder dans le crash test, j'ai essayé ce jeu Dark Souls 2 sur YouTube, vous pouvez chercher crash test Dark Souls 2, je me fais défoncer. Mais quand vous voyez après des youtubeurs qui font ça avec des challenges, c'est vraiment très très impressionnant.
Allez, pour terminer, on va tous s'inventer un challenge. Donc je vais vous donner un exemple des challenges un peu drôles qu'on peut se créer soi-même. Je suppose que vous connaissez tous Fallout, le jeu PC post-apocalyptique où en fait il faut survivre dans un univers complètement dévasté. Mmh. Et dans cette survie, pour manger, vous tuez des animaux et vous les mangez, quoi.
C'est... D'accord.
Et ben il y a un mode qui s'appelle le Fallout New Vegan. New Vegan, en référence à Fallout New Vegas, où en fait le but c'est de finir le jeu sans manger d'animaux. En fait, il faut se la jouer végétarien dans le jeu. Donc c'est assez rigolo, mais vous verrez, c'est très 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 compliqué. Pareil, il y en a qui s'amusent à reproduire leurs allergies alimentaires dans les jeux vidéo. Par exemple, je dis une bêtise, personne qui est allergique au blé. Mais en fait, dans le jeu vidéo, le but c'est de le finir sans manger tout ce qui est lié au blé. Mais vous verrez, c'est juste impossible.
C'est génial.
Donc voilà, vous pouvez vous inventer vos propres challenges. Par exemple, finir Juste Cause sans utiliser un seul véhicule. Des trucs comme ça. Donc allez-y, à vous d'inventer un challenge un peu débile.
Ouais, et puis en plus, si vous voulez, ça vous fait des vues sur YouTube et tout, ça peut être sympa. Ouais. Partagez ce genre de trucs.
Non, mais il y a des idées intéressantes. Flo, une idée de challenge pour finir le jeu.
Le challenge, putain, c'est...
Ah, c'est dur, il faut y penser quand même, à se dire, tiens, on va le faire finir le jeu sans bouffer de blé ou de trucs comme ça, ou de viande, c'est...
À reculons, tiens, ça peut être drôle. Finir Fallout à reculons.
Ah, ouais, ça c'est des heures et des heures et des heures de jeu, quoi. Il faut le connaître par cœur.
Ouais, ouais. Génial. Voilà. Donc voilà, tous les styles de
fin.
De challenge qu'on peut se fixer quand on a fini un jeu à 100%.
Ouais, qu'on est fan d'un jeu, qu'on veut pas le lâcher.
Exactement. Ouais. Il y a plein de choses à faire.
Ouais. Bah, écoute, merci Greg pour ce
sujet. De rien, merci à vous.
On va se faire la coupure pub. Pub, pas du tout, coupure musicale, excusez-moi, je dis n'importe quoi, je me suis perdu. On va se passer la musique de F-Zero, Big Blue Theme, voilà. Une musique qui nous a été sélectionnée par notre ami Flo, voilà. Donc on va se passer ça, on revient dans un instant, on est ensemble de 12h à 13h, à tout de suite. dans l'air du jeu. Désolé les gars, je vous ai lancé sans vous prévenir. Voilà. Donc de retour dans l'air du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, de high-tech. On est ensemble de 12h à 13h tous les samedis sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. On ne le dit pas assez, et vous voyez, il faut le rappeler. Sachez que vous pouvez retrouver tous les podcasts de l'émission radio, donc sur la page Facebook de l'association Gamage, hein, Gamage qui réalise l'émission, donc n'hésitez pas à les soutenir, à leur faire des suggestions, à nous liker, des choses comme ça, ça nous fait très 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 plaisir. Et puis réagissez en direct sur Twitter, voilà, via le hashtag R du jeu, RDUJEU. D'ailleurs, on a eu une réaction de Joël Indien qui nous indique qu'il a fini le jeu Tetris sur NES en 10 secondes. Alors, comment te dire? C'est possible, pourquoi pas?
Non, c'est beau. C'est beau.
Mais bon, voilà. C'est peut-être beau. Que c'était juste le premier niveau à retravailler, à voir. Si nous fait une petite vidéo, on la publiera. On la publiera volontiers sur notre page Facebook. Bon, on va enchaîner avec la deuxième partie. Donc, la deuxième partie est la partie un peu mystérieuse que Flo nous a énoncée tout à l'heure sur les MMO et la réalité virtuelle. Voilà. Ça peut faire peur des parents et tout. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Qu'est-ce qu'il va nous raconter? Allez, vas-y.
Alors, il y a un petit peu moins d'une semaine, il y a IBM qui a fait une grosse annonce sur Internet par une vidéo YouTube où ils allaient faire le jeu Sword Art Online. Donc, c'est un roman qui a été retranscrit en animé et en manga.
Voilà.
Dans cette histoire, dans ce manga, il y a un personnage principal qui se retrouve bloqué dans un MMORPG, donc un jeu de rôle en ligne, et ils vivent là-dedans, dans ce jeu. Et IBM a donc décidé d'essayer de recréer cet univers, parce que dans le jeu, en fait, dans l'anime, le manga, ils mettent un casque sur la tête. Et ensuite, ils sont dans le jeu, quoi. Ils bougent plus, ils sont allongés sur leur lit et par la pensée, ils arrivent à jouer, quoi.
C'est la matrice.
Et ils se retrouvent donc bloqués dans le jeu, à plus pouvoir enlever le casque et
voilà. Ouais, ils sont carrément bloqués, en fait, dans l'histoire. Moi, dans je l'histoire, pensais oui. qu'ils pouvaient y aller quand ils voulaient, voilà. Donc il faut le dire quand même, c'est plutôt un bon manga.
C'est plutôt un super
ça a été manga. Ton coup de cœur, je me souviens,
ouais,
à une époque.
J'en ai déjà parlé, ouais.
Donc, un manga pour les fortement. Jeux, enfin, de jeux vidéo, il y en a de plus en plus qui traitent de ça, d'ailleurs, hein, de jeux vidéo.
Et genre. Donc, IBM a dit annoncé qu'ils allaient, faire, un test, la grandeur réelle du jeu Sword Art Online, dans la vie réelle, quoi. Donc, le but, ce serait, en fait, ils vont faire un test sur 200 personnes à peu près. Ils vont les faire entrer dans une salle particulière où leur corps va être scanné pour être retranscrit dans le jeu. Ils vont a priori avoir un casque du type Oculus Rift ou casque de réalité virtuelle. Et ils pourront être dans le jeu, vraiment vivre le jeu comme ils étaient dedans, jouer sans manette, dans une salle de... Ouais, a priori, ils auraient un champ d'action de près de 2 mètres carrés à peu près, où ils pourraient bouger, etc. Et vraiment, on serait dans un MMORPG complètement réaliste, quoi, avec les casques de réalité virtuelle. On serait complètement dans le jeu.
Alors déjà, première réaction comme ça pour toi, Greg. Moi je le sais, ça faisait déjà une petite semaine, il frétillait, il voulait en parler, donc j'étais déjà au courant de ça. Toi comme ça, à chaud, qu'est-ce que ça t'inspire, Greg? Ça te fait peur?
Non, bah peur, non, après bon, c'est une nouvelle technologie qui arrive, donc oui, ça peut générer certaines inquiétudes, mais en même temps, c'est un peu le rêve de tout gamer, quoi, d'avoir son casque de réalité virtuelle.
Les yeux qui s'attient devant moi.
Et d'être dedans, quoi. Qui n'a pas rêvé de monter un chocobo?
Un chocobo. Non mais c'est vrai, j'avoue que quand tu m'en as... Alors moi j'étais ça m'a un peu fait peur, hein, je vais pas mentir au début. Quand il en a parlé parce que tu te dis putain ça jusqu'où on va aller en fait? Où est la limite? Mais moi justement c'est par rapport au système de jeu alors Flo, comment ça se passe? C'est vraiment donc ils seront dans une salle, ils vont bouger et ça retranscrira ces mouvements là dans le jeu.
Ben en fait, il n'y a pas eu grand-chose sur l'annonce, on n'en sait pas trop. Ça voilà. va se dérouler fin mars, ça se passe à Tokyo, c'est IBM Japon qui organise ça. Mm-hmm. Et on va dire, on a assez peu d'infos.
Ouais, ça fait le buzz quand même. Parce que
mais bon, ça a fait un peu le buzz pour tous les amoureux des MMORPG et aussi du manga. Et par contre, l'annonce a eu un contre-coup, on va dire que la base de la traduction était mal faite, comme c'était en japonais. Mmh. Et en fait, ce serait, ils vont pas développer un jeu. Ce sera juste une, en fait, c'est un peu une démo technique où ils montrent les performances de leur nouveau super serveur. Ils vont montrer les performances de leur nouvelle intelligence artificielle. C'est plus une démo technique.
Ah, la déception.
Donc un peu la déception, parce qu'il n'y aura pas un jeu derrière. Mais par contre, ça annonce quand même du très très bon. Quoi. On verra après le test comment ça va, comment ça se sera passé. Quoi. Mais potentiellement, ça ouvre des possibilités que je trouve juste géniales d'ici, je pense, 2025-2030. On peut avoir des jeux vidéo en réalité virtuelle. Des MMORPG en réalité virtuelle, c'est vraiment exceptionnel.
Tu voulais réagir, tu voulais dire quelque chose là-dessus, Greg ?
Bon, en fait, la vraie crainte ne vient pas forcément de l'arrivée de la réalité virtuelle, de tous ces casques, parce que ça, finalement, c'est le support. La crainte, c'est plutôt qu'est-ce qu'on va en faire ? Il y a des gros studios de jeux vidéo qui travaillent dessus, notamment Ubisoft. Je crois qu'il y a 2-3 jours, il y a le premier ministre canadien qui allait dans les studios d'Ubisoft pour essayer un Oculus Rift. Enfin, voilà. Donc, ça, on sait que ça va être tourné vers le jeu.
Ouais.
Ce qui pourrait être plus inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, c'est IBM qui travaille dessus. IBM qui est vraiment, vraiment à la pointe de tout ce qui est intelligence artificielle. Il y a quoi? Il y a une semaine, ou deux, je sais plus, il y a Google, je crois, qui a réussi, enfin, l'intelligence artificielle créée par Google a réussi à battre pour la première fois un joueur au jeu de Go, qui est un jeu hyper technique. Enfin voilà, aujourd'hui, je pense qu'il faut plus avoir peur de l'intelligence artificielle que de la réalité virtuelle. Ah, et après, si on met les deux ensemble, attention.
Tu me renvoies à l'émission qu'on a fait, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, où on parlait de Watson. Et donc Watson, le projet d'IBM, hein, encore eux qui ont fait un gros projet sur l'intelligence artificielle. Ouais, l'occasion pour moi de dire que vous pouvez retrouver le podcast. Bien joué,
Greg.
C'est très très bien fait.
Justement, c'est aussi pour faire de la démo de Watson qui font ce
encore ce
test.
Watson, quoi. D'accord, mais c'est vrai que sur le principe, alors vous, comme ça, je vous dis, on imagine, on va un peu plus loin, World of Warcraft, parce que je sais que vous y avez joué tous les deux, avec un casque de réalité virtuelle. Vous faites quoi? Vous achetez banco ou vous mettez une réserve? Je pose la question, mais je me doute de la réponse.
Moi, je pense que n'importe quel MMORPG en réalité virtuelle, je dis banco immédiatement.
Toi aussi, Greg, ou pas? Tu te poses pas de questions.
Ah oui, mais c'est obligé. Après, il y a toute la partie reconnaissance de mouvement, comment on va se déplacer.
A priori, de ce que j'ai compris de l'article, on en saura plus quand ce sera paru. Mais ils auraient un nouveau casque qui va détecter un peu les ondes du cerveau. Et avec leur intelligence artificielle, ils arriveraient à reproduire ces ondes du cerveau, à essayer de comprendre ce qu'on veut faire et à se déplacer dans le jeu.
Ça, c'est balèze. Ça, c'est puissant, par contre. Quand tu m'avais dit ça, quand tu m'as expliqué que ça allait reconnaître les ondes du cerveau pour pouvoir se déplacer.
A priori, ça devient technique. Il y a l'air d'avoir un peu de ça. Je sais pas exactement si c'est des problèmes de traduction, on sait pas encore vraiment. Mais si c'est ça, c'est juste énormissime.
De toute façon, c'est clairement la prochaine révolution technique qui va arriver. Il y a longtemps qu'on n'en a pas eu de grosses révolutions techniques. On peut dire que la dernière, c'était quoi? Les smartphones, finalement, la grosse, grosse révolution. Mais là, les casques de réalité virtuelle vont vraiment changer notre manière de vivre, mais du moins de faire beaucoup de choses.
Ah, tu y crois? C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur que ce soit un gadget, un peu comme on nous avait vendu la 3D.
Facebook a racheté la société Oculus Rift, donc qui est une des premières sociétés qui a créé un casque de réalité virtuelle. Donc eux, ils veulent vraiment en faire une application sociale. Mais si c'est pour être assis chez soi avec son casque de réalité virtuelle, être connecté à Facebook et discuter avec ses copains, alors si c'est des copains qui sont à l'autre bout du monde, ok, mais si c'est pour discuter avec ses potes qui sont au bout de la rue, c'est un peu dommage. J'ai vu qu'également, ils voulaient lancer de la visite d'appartement par casque de réalité virtuelle.
Oui, c'est
carrément intéressant. Peut-être pour les cours en ligne, les cours à distance ou la visite de certains sites touristiques. Enfin voilà, mais ça va clairement changer notre manière de faire certaines choses. Clairement.
Il y a la question qui s'était posée notamment à cause du prix, parce qu'au final, là, il faut savoir qu'un casque Oculus Rift qui devrait arriver prochainement, hein, je crois que c'est le mois prochain ou dans 2 mois, il est aux alentours de 750 €. Donc on pensait que ça serait un peu moins cher pour que ça soit accessible au grand public. On se rend compte que ça sera plutôt orienté vers des professionnels. Faut voir comment ça va évoluer. C'est vrai qu'effectivement, si ça baisse, qui devrait arriver.
D'ici 2, 3, même à 5 ans, ça sera complètement accessible, je pense.
Rappelez-vous le prix des premiers écrans plats ou des premiers lecteurs Blu-ray, c'était hors de prix. Et puis aujourd'hui, bon, c'est raisonnable.
C'est vrai que moi, alors quand tu m'avais parlé de ta news, donc cette immersion dans un autre univers, ça m'a rappelé un peu un programme qui avait explosé. Je crois que c'était aux alentours de 2006, 2007. C'était Second Life. Je sais pas si vous connaissez. Donc Second Life, pour vous expliquer rapidement, c'était une sorte de vie parallèle virtuelle en fait. Vous avez accès à un autre univers virtuel où vous retrouviez toutes les marques, vous pouviez retrouver vos potes, vous avez vos avatars, vous aviez tout. Et au final, cet univers, bah, il a fini par mourir plus ou moins. Alors, il existe toujours, hein, pour ceux qui se posent la question, mais il y a plus grand monde qui va là-dessus. Est-ce qu'on va pas peut-être arriver finalement à la même limite avec un casque de réalité virtuelle?
En fait, pour Second Life, en fait, c'est un MMORPG, sauf qu'il n'y a rien à faire dedans, à part essayer de vivre comme dans la vie réelle. Donc, il y avait assez peu d'intérêt. Mmh. Alors qu'un casque de réalité virtuelle, c'est une nouvelle façon de jouer. Et aussi, ça aura peut-être d'autres applications dans la vie de tous les jours, mais en tout cas, je sais que pour le jeu, je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup de choses.
En fait, ça dépend de comment tu joues finalement. Si c'est juste avec la manette, est-ce que ça va, enfin, tu seras plus immergé. Mais au final, ça sera un écran.
Tant qu'on pourra pas enlever la manette et pas avoir à faire comme sur les Kinect, etc., à gigoter dans tous les sens, c'est vrai qu'il y aura des limites. Avoir justement comment on va pouvoir gérer les ondes cérébrales un jour ou l'autre.
Ouais. Vas-y, Greg. Puis,
au niveau de l'immersion, moi je me rappelle mes parents quand je jouais à la Game Boy, ils me disaient mais arrête, tu fais que ça. Et puis après, t'as eu les MMO où les gens étaient encore plus immergés dans le monde virtuel. Mmh. Et là, on va avoir des casques où on sera encore plus immergés. Et on va peut-être toucher des limites où certaines personnes vont peut-être perdre la notion de qu'est-ce qu'est la réalité, qu'est-ce qu'est la vraie. Enfin, il peut y en avoir. Je pense notamment aux Sims. Mmh. Tu vois, typiquement, les Sims en réalité virtuelle, c'est complètement crédible. Ouais, tu parlais de Second Life, c'est un peu comme les Sims.
Oui, c'est ça. Hein.
Mais du coup, il y a des gens qui risquent de trouver la vie virtuelle, entre guillemets, plus intéressante que la vraie vie, quoi.
Bah oui, c'est une question que j'ai envie de vous poser, vous qui êtes. Je vais pas vous demander combien d'heures vous avez passé sur des MMO. Je ne vous ferai pas cet affront, mais je me dis avec un casque de réalité virtuelle, il y a moyen que vous vous retrouviez peut-être encore plus immergé, donc encore plus dépendant. Enfin, je sais même pas si on peut parler de dépendance, mais encore plus dedans, quoi. Ça me fait un peu peur. Des fois, je me dis, c'est vrai que je vous aime bien tous les deux. Ça se trouve, le jour où ça va arriver, je vous verrai peut-être plus. Tu sais, je me dirais, merde, ils sont passés où, mes potes?
On se verra en virtuel.
Je vais être avec vous et tout. On sera des émissions radio en direct d'un autre monde et tout.
Exactement.
Non, mais c'est vrai que ça peut être intéressant, mais ça peut un peu.
Ça fait un peu peur, je comprends.
Ouais. Toi, pas du tout. Toi, t'es serein. Toi, si tu vois ça, t'y vas.
Non, je suis pas du tout serein. Moi, si je tombe là-dedans.
On
m'en voit plus, c'est clair. C'est pour ça que je sais pas, faudrait qu'ils trouvent un système pour qu'on reste pas connecté tout le temps.
Qu'ils envoient des ondes. Le casque, en fait, il t'électrocute au bout de 2 heures de jeu.
Mais là, il faut savoir que je crois que le jeu est prévu pour 2020, quelque chose comme ça, hein, 2022.
Non, le jeu ne sortira pas.
Ils avaient pas mis une date sur le trailer, un truc genre 2000.
Non, il y avait juste la. Il y avait une date, mais c'est la date où ça se passe dans le jeu vidéo. Le manga se passe en 2025.
D'accord, ok. Parce qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, l'Oculus Rift, il y a quand même une limite, c'est qu'au bout d'un moment, être dedans, dans cet univers, le cerveau a un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Concrètement, ça bouge dans tous les sens et vous êtes assis sur votre canapé et le cerveau, il comprend pas que ça puisse bouger dans tous les sens et que vous restez assis, il y a pas de sensation devant, vous voyez pas trop ce qui se passe, ça bouge pas. Il a un peu du mal, vous avez passé votre main devant vos yeux, il va rien voir du tout. Voilà, pour le cerveau, encore, ça reste un peu bizarre. Après, faut voir comment ça va évoluer, tout ça. Peut-être que ça va s'améliorer. Je sais que l'équipe de Oculus Rift travaille vachement sur la maniabilité avec des manettes un peu innovantes. Faudra voir si ça sera peut-être pas ça aussi la limite du casque de réalité virtuelle.
Au niveau de la démocratisation, entre guillemets, ça passera peut-être pas forcément par l'Oculus Rift parce qu'ils annonçaient qu'aujourd'hui, dans le parc de PC installés chez les particuliers, il y a peut-être que 1% du parc des PC qui serait suffisamment puissant pour faire tourner la V1 de l'Oculus Rift. Donc, comme tu l'as dit, ça va peut-être plutôt se destiner à des professionnels. Par contre, il y a Sony qui va sortir son casque de réalité virtuelle. Alors, soit cet été, soit pour Noël, peut-être une annonce là très rapidement et une sortie à l'automne, le Morpheus. Mmh. Et là, on sera sur une gamme de prix qui sera. Un peu plus abordable que l'Oculus Rift, je crois que ce sera autour de 400 euros. Ça reste une somme, hein, quand même, c'est le prix d'une console. Mais aujourd'hui, il y a plus de 100 millions de PS4. Je crois qu'ils ont passé la barre des 100 millions. Mmh. Donc demain, le Morpheus peut devenir peut-être un outil de démocratisation de la réalité virtuelle.
Puis il y a les smartphones aussi. Ils font de plus en plus de support pour mettre les smartphones, des casques pour mettre le smartphone devant les yeux et que le smartphone serve de casque de réalité virtuelle.
Ouais. C'est vrai qu'à terme, avec des téléphones ultra puissants, peut-être qu'on n'aura plus besoin d'avoir une bête comme. Et côté MMO RPG, c'est vrai que ça se prête carrément à la chose.
Et toi, Nas, tu te verrais faire un NBA Live avec un casque de réalité virtuelle?
Alors, c'est ce que je disais un peu à Flo. Moi, ce qui m'embête, c'est que je suis un peu feignant, mais quand je joue à un jeu vidéo, j'aime bien rester posé quand même. Là, on va dire que pour l'instant les supports ça serait quoi, une manette, donc ça ça me dérange pas. Si je dois commencer à simuler des paniers dans mon salon devant voilà, là ça me gêne un petit peu. Après avec le concept des ondes cérébrales, alors moi je suis un peu peureux, je vais me dire mais si on peut m'envoyer des idées voilà, où peut-on s'arrêter, voilà.
Moi, c'est la question que je me pose, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas de support qui permette de jouer. Enfin, l'Oculus Rift est très bien, mais aujourd'hui, il n'y a pas de support. Le Kinect bouger dans tous les sens, c'est pas génial. Les manettes,
dose, on va dire.
C'est pas exceptionnel non plus.
T'as plus de danse.
Mais moi, ce que je vois aussi, c'est les progrès du médical où les gens arrivent à avoir des prothèses de bras ou de jambes et arrivent à faire bouger leurs doigts, ben justement par les ondes cérébrales, par la pensée. Il y a des progrès en médecine qui se font de ce côté-là. Donc, peut-être que dans 20 ans, 25 ans, ce sera une technologie qui sera plus grand public et on ne sait pas ce que ça peut amener.
Ah, ça sera la matrice et tout. Tu resteras couché, tu mettras ton casque, tu n'auras plus besoin de bouger. On sera des légumes et puis après, voilà, on vivra dans une autre réalité virtuelle, idyllique. Voilà. Où pouvons-nous nous arrêter ? Non, moi, ce qui me fait peur, c'est que bon, les industriels, je connais, s'ils peuvent commencer à magouiller un peu avec le cerveau, ils vont essayer de mettre des idées en tête, pas trop
des pubs dans la tête.
Des pubs, voilà. Ah, j'ai une envie de coca, je ne sais pas pourquoi.
Mais on arrive clairement dans un livre de Philippe K. Dick. Hein. Clairement, ça va être ça. Hein. Tout ce qui est Minority Report, Blade Runner, les trucs comme ça.
Bah, même Matrix, on y est.
On
n'y
est pas si loin que ça.
C'est ça. Donc, c'est pour ça, bon, après, ça me fait un peu peur, j'avoue, ça me fait un peu peur, mais après, bon, si ça se fait en harmonie, eh bien. Voilà. Déjà, on va voir, hein, on en reparlera d'ici très très peu de temps, quand les casques de réalité virtuelle vont apparaître de plus en plus. On va voir déjà ce que ça va changer, parce qu'au final, ça se trouve, ça fera un flop. On ne sait pas si c'est mal amené, si c'est mal géré. Ça peut être une technologie qui peut, qui peut mourir étouffée.
Tout à fait.
Bon, bah, du coup, donc, on verra quand est-ce qu'il y aura lieu ce test, tu nous as dit déjà, pour
Sword Art Online. Mars.
Ouais, donc c'est bientôt, quoi.
C'est bientôt.
Putain, c'est...
C'est demain.
Ouais, voilà, c'est ça. Donc, à voir, on en reparlera d'ici là, voir comment ça évolue. Si on a quelques détails, je pense qu'il y aura des vidéos aussi. Ça sera très impressionnant. On va voir des gens gesticuler dans tous les sens dans une grande salle avec des casques. Ouais, ça peut faire un peu flipper. Bon, très bien. Ok. Eh ben, écoutez, on va se faire une coupure musicale rapidement. On va se passer. Alors, c'est Linked Horizon et c'est la musique du générique de l'Attaque des Titans, puisqu'ils ont sorti toute une collection de jeux vidéo. Voilà, donc voilà, petit hommage à cette série, à ce manga. Et puis on revient dans un instant. Allez, à tout de suite.
Bye.
retour dans l'ère du jeu, votre rendez-vous qui parle de jeux vidéo, de high-tech. J'espère que vous allez toujours très très bien. Grosse grosse émission. Là, on a parlé de réalité virtuelle, on a parlé de la fin des jeux avec alors dans les jeux vidéo plutôt que la fin des jeux. Faut faire attention comment on dit les mots là sur ce sujet-là. Donc voilà, on a parlé de speedrun et autres. Donc vous pourrez retrouver bientôt le podcast. J'espère que vous pourrez le retrouver dès lundi sur la plateforme de GameAge, le Facebook. Donc voilà. Et vous pouvez toujours réagir avec nous sur Twitter via le hashtag RDUJEU, RDUJEU. Si vous avez des questions ou autres, n'hésitez surtout pas, on se fera un plaisir de vous aiguiller. Et puis, bah, si on ne connaît pas la réponse, on n'ira pas votre question. Voilà, on est super sympa. Attends, je fais ça. Là, on va partir pour la troisième partie. Donc, on va se faire un petit tour des petites actus un petit peu qui se passent dans l'univers virtuel. Et puis, avoir vos réactions un peu à chaud ou pas, d'ailleurs, si vous êtes déjà au courant de la chose. Et ben on va commencer tout de suite avec non d'abord je vais me faire un plaisir, je vais me yoga fire. Tiens, ça me fait oups. Non, je me suis loupé. Attendez. Donc ouais. Je disais
t'as que des tests en live, c'est dur hein.
Non mais c'est parce que j'ai oublié d'arrêter la musique.
Tu veux qu'on te laisse Nas?
Ouais, laissez-moi, ouais, hein. C'est bon, non, je vais me yoga fire.
Yoga.
Voilà. Mais c'était pas le yoga fire.
Non, dommage.
Bon, OK, je vais travailler ça, on se la refait la semaine prochaine.
Tu couperas au montage.
OK. Et on va commencer tout de suite par Coca-Cola. Coca-Cola qui se lance dans le, enfin qui est présent dans le jeu vidéo et qui se lance dans la réalité virtuelle aussi. Plus qu'ils vont lancer leur propre casque de réalité virtuelle, comment se fait-ce? Tout simplement en utilisant les packs de canettes de 12. Voilà. Donc via les packs de canettes de 12, vous allez pouvoir reconstituer. C'est prédécoupé. Et vous allez pouvoir vous faire votre casque de réalité virtuelle. Vous allez pouvoir insérer votre téléphone, tout simplement, dedans. Donc, une belle manière de pouvoir recycler son pack Coca-Cola. Est-ce que vous en aviez entendu parler de ça? Du tout?
Pas du tout.
Pas du tout. Alors, qu'est-ce que ça vous inspire comme ça? À première vue, plutôt bonne initiative ou plutôt pourrie?
C'est de la com, quoi.
C'est uniquement de la com. C'est marketing, c'est vraiment commercial.
Il faut savoir que Coca-Cola est plutôt présent dans l'univers du jeu vidéo. Hein. On peut savoir, bah, par exemple, rien que pour le dire, ils sont présents à la Lyon eSport où ils vont livrer plus de 2000 canettes gratos aux joueurs. Ils ciblent vachement ces gens-là. Et du coup, bah, ils se lancent dedans. Alors, c'est un peu pour concurrencer le modèle de Google, hein, finalement. Google qui a aussi ce casque de réalité virtuelle en carton. Là, Coca-Cola veut mettre ça en place. Donc, la possibilité peut-être d'ici peu. Aux États-Unis, ça devrait arriver incessamment sous peu. En Europe, ça devrait arriver dans la foulée. Donc voilà, si vous voulez avoir un casque de réalité virtuelle, au moins, on va dire, vous pourrez recycler votre pack. Carton de Coca-Cola, voilà. Ça, voilà, bon, voilà. Bon, ok.
No comment.
Ok, no comment, très bien. Deuxième actu dans notre univers, c'est la sortie de Noob, le film 2. Vous connaissez Noob, la série Noob, Greg, toi?
C'est une web-série, non?
C'est ça, exactement. Ouais. C'est une web-série, en fait, qui retrace les aventures de joueurs de MMORPG, donc le jeu de rôle massivement multijoueur. On les suit donc dans leur vie réelle et dans leur vie virtuelle, voilà, où ils vivent des aventures totalement folles. Il faut savoir que c'est un film qui a été financé en grande partie par
le crowdfunding. Ils ont battu des records de crowdfunding.
Voilà. Ouais. Toi, tu connais bien. C'est toi qui m'en avais parlé la première fois. C'est un gros succès, hein, cette web série. Et là, donc, ils sont partis sur 3 films, voilà, financés via le crowdfunding. Le 2, donc. Enfin, donc, il y avait
Il vient de sortir le 2, là.
Et le 2 est sorti il y a pas très, très longtemps. Donc, ça correspondra à la saison 7, si j'ai bien compris. Voilà, donc une bonne web-série qui a même été diffusée sur des chaînes publiques. Hein. Il me semble que c'était passé sur France 4 ou un truc comme ça. Non, c'était pas France 4.
Non, c'était... comment s'appelle cette petite chaîne obscure
TF1.
De la télé. Chaîne gratuite qui parlait de jeux vidéo de Japon.
No Life.
Oui, c'est sur No Life, ouais. Voilà.
C'était pas passé. Moi, il me semble que j'avais vu sur une chaîne TNT une fois. Bon, moi. Très bien. Bon, en tout cas, regardez-le sur Internet.
Il fait une BD, je crois, de Noob. Hein.
Oui, il y a des BD qui existent et des romans.
D'accord.
Voilà, donc voilà, faites-vous plaisir. Il faut savoir que le film donc, qui a été fait est disponible sur YouTube, donc totalement gratuitement, bien sûr. Donc voilà, bonne news pour tous les fans de MMO. Oui. Voilà. Lancez-vous dedans. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme news? Allez, je vais vous poser une question. Est-ce que vous connaissez le classement des jeux les plus streamés sur Twitch en 2015?
Les premiers, ça va pas être trop dur à trouver.
Ouais. Le top 3, on tente le top 3.
Tentez le top 3.
Allez,
League of Legends.
Ouais.
C'est ça, le premier, numéro 1.
Hearthstone et...
Non.
Pas dans le top 3.
Ah, je mets pas dans le top 3. Je mets Counter-Strike Go.
Donc Counter-Strike Global Offensive.
Ouais, Global Offensive.
Bien vu, bien vu.
C'est et ça. Dota 2.
Oh là là, wow. Pas
la
mal,
classe,
hein. Chapeau, chapeau.
Je passe trop de temps sur Twitch, c'est facile. C'est toujours les trois premiers jeux.
Donc Hearthstone, c'est, il est quatrième. En 5, on a Minecraft. En 6, on a H1Z1. En 7, c'est Destiny. En 8, World of Tanks. En 9, World of Warcraft. Et en 10, FIFA 15. Voilà. Donc ça m'étonne en plus, parce que FIFA 15, finalement, il arrive dixième. Et pourtant, on a une émission de télé... sur des compétitions sportives sur l'équipe 21. Mais bon, ça s'y prête. Bon, voilà. Donc, plutôt une bonne chose. Non, ça, donc, plutôt. Vous, non, toi, c'est un peu sur Twitch, Greg, ou pas?
Pas du tout.
Et toi, Flo?
Ouais, moi, je. Surtout en 2015, j'y allais beaucoup. Maintenant, un peu moins, mais j'ai passé pas mal de temps à regarder des compètes de jeux vidéo.
Ouais, maintenant, ça y est, t'es un autre homme.
J'ai plus le temps.
Allez. Autre news, on va enchaîner. Alors là, c'est un peu plus éco. On va parler de la production éolienne. Il faut savoir que depuis, c'est très très récent, mais on a réussi à produire plus d'énergie via l'éolienne que via l'énergie nucléaire. Alors pour vous donner les chiffres, on a réussi à faire 432,42 gigawatts en 2015 d'énergie éolienne.
On parle où là? On est en France, dans le monde
On parle où? On parle dans le monde.
D'accord.
Voilà. Et en nucléaire, on a fait du 382,55. Alors, pourquoi j'en parle? C'est un peu geek quand même, on va dire. C'est de l'énergie. C'est plutôt une news intéressante. C'est un petit côté écolo. Allez, bon, je le dis franchement, ça vous inspire quoi? Vous en foutez? C'est cool? C'est un beau progrès? Greg?
Oh non, mais c'est bien. Tout ce qui pourrait remplacer à terme les énergies, polluante ou nocive pour l'environnement, c'est cool quoi, c'est plutôt cool.
Ouais, dans un monde en plus où on consomme de plus en plus d'énergie.
Ouais, c'est clair, c'est vraiment une super nouvelle. Moi je trouve ça super bien.
Ouais, bon ben on verra en 2016 si ça continue sur cette lancée ou pas. Allez, autre news. Alors c'est pas vraiment une news, là c'était plutôt votre avis que je voulais avoir. C'est sur Street Fighter V. Alors Street Fighter V, on sait que Street Fighter c'est un jeu de combat où voilà, c'est du 1 contre 1 globalement. Là, ils ont sorti le 5 dernièrement sur PlayStation 4 et sur PC. Alors que d'habitude, bah, tous les Street Fighter sortent sur toutes les plateformes, on sait, voilà, sur toutes les consoles, limite sur smartphone et autres, voilà. Donc là, ils se sont limités. Et ils ont voulu le jeu un peu plus e-sportif. Et il faut savoir maintenant que dans Street Fighter 5, vous allez avoir deux types de monnaie virtuelle. Donc, une monnaie que vous allez payer, qui s'appelle le Zeni. Vous payez 1 euro et vous avez 10 zénis, je crois, si je dis pas de bêtises. 1$ pour 100 zénis, voilà. Et ces zénis-là vous permettront donc d'acheter des personnages. Il faut savoir qu'un personnage, on peut en avoir un à partir de 600 zénis. Donc en gros, il faut lâcher 6 euros pour avoir un personnage.
Ou. C'est la seule façon de débloquer les personnages en jeu.
Ou. T'as la deuxième monnaie qui s'appelle le Fighting Money, qui s'obtient en jouant en fait, et qui vous permet donc, plus vous jouez, plus vous pouvez avoir des sous et acheter des personnages. Alors qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle manière de se recycler, cette nouvelle manière d'acquérir des personnages, donc soit en payant ou soit en passant des heures sur le jeu?
Je pense que c'est un modèle complètement inspiré du free-to-play.
À 2000%, il s'en cache pas.
Qui est un modèle assez efficace. Et si ça leur permet d'avoir des serveurs de bonne qualité, comme c'est pas le cas actuellement.
De bonne qualité, c'est-à-dire?
Non, sur la sortie du jeu, il y a eu des gros problèmes sur les serveurs pour jouer.
D'accord, ok.
En ligne. S'il n'y avait pas le PlayStation Play à payer derrière, je trouverais ça légitime. On t'offre un service de qualité, tu peux jouer en ligne gratuitement, bonne qualité. À côté de ça, t'as une contrepartie, soit tu joues beaucoup, soit tu payes. C'est dans l'air du temps.
C'est dans l'air du temps, d'accord. Toi, Greg, qu'est-ce que t'en penses?
Ça me choque pas, c'est plutôt pas mal, quoi, que du moment qu'il y a les deux systèmes, c'est-à-dire que s'il y en a qui veulent payer 6 euros pour avoir un personnage plus rapidement, bah, libre à eux, hein, ils sont pas obligés. Et puis inversement, celui qui a pas envie de payer et qui veut l'obtenir rien qu'en jouant, bah, il peut, donc... Non, c'est bien.
Voilà. Bon, c'était la première partie de la news.
Ah, d'accord.
Après, je vais développer. Non, mais oui, je vous ai tendu un petit piège. Non, c'est juste pour vous expliquer. Alors, pour débloquer un personnage, il faut, donc si vous voulez juste l'avoir en jouant, il faut avoir 100 000 fighting money. Voilà. Alors donc la monnaie qu'on acquiert en jouant. Et il faut savoir que pour avoir 50 points de Fighting Money, attention hein, les matheux, ils vont vous accrocher.
Attends, je note.
Il faut donc pour avoir 50 points, il faut gagner un combat. Un combat en ligne, voilà. Donc en gros, pour avoir un personnage, il faut gagner approximativement pour l'instant 2000 combats en ligne pour pouvoir avoir un personnage.
C'est pas... En fait, faut... j'ai du mal à comprendre quand le jeu sort, il n'y a pas tous les personnages disponibles.
En fait, si tu veux,
ça va un peu à l'encontre de l'e-sport.
Ils ont fait tout un planning où normalement il y aura 6 nouveaux personnages et se passer à peu près un tous les mois, à peu près globalement, avec des mises à jour gratuites. Hein, donc le jeu sera mis à jour gratuitement. Mais il y aura des personnages qui arriveront régulièrement, voilà.
D'accord. En gros, c'est les personnages de DLC où voilà, soit t'achètes ta DLC, voilà, soit tu joues beaucoup et tu peux te l'avoir gratos.
Voilà. Mais voilà. Donc comme je vous dis, c'est 2000 combats, 2000 victoires en ligne pour pouvoir réussir à avoir un personnage.
Si quand tu achètes ton jeu, il est complet, tu as tous tes personnages et ensuite c'est pour avoir une façon d'avoir les DLC gratuitement finalement. Ouais, ça me choque pas, c'est comme ça.
D'accord. Toi aussi, Greg?
Ouais. Après, j'ai du mal à visualiser ce que ça représente, 2000 victoires, parce
c'est
que
beaucoup,
bon, tu as forcément des défaites au milieu. Donc ça fait 3000 matchs. C'est... 3000 matchs de quoi? De 5 minutes? Bon.
Ça...
Je pose deux, je retiens un.
À mon avis, ça demande beaucoup ouais, de temps. Ouais. Ça demande beaucoup de temps. Ça sera pas accessible à tout le monde, on va dire.
Bah, c'est sûr que Capcom va gagner beaucoup d'argent avec ça. Mais après, il faut voir aussi, tu n'as pas dit, mais ils ont fait quand même sur leur jeu, ils sont un des premiers à le faire où c'est cross-platform, c'est-à-dire qu'un joueur PC peut affronter un joueur PlayStation.
Ouais, c'est quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas dit, mais
c'est bien,
ouais,
mais
effectivement.
Non, c'est bien.
Mais c'est quand même, enfin, ouais, c'est un jeu, je trouve ça super intéressant.
Tout à fait. Ouais.
Bon, alors voilà, sachez-le, en tout cas, vous allez avoir des personnages qu'il faudra donc soit débloquer en gagnant. Alors moi, je dis que c'est difficile, pourquoi? Parce que j'ai beaucoup joué à Street Fighter 4. Et je sais que très rapidement, le niveau des adversaires devient très très élevé. Et voilà, il faut s'accrocher. Voilà, c'est un vrai challenge. Mais après, vous avez la possibilité d'acheter quand même, voilà, de claquer vos 6€ pour avoir votre personnage.
Okay.
Voilà. Bon. Allez, autre news. On va enchaîner. On va parler un peu cinéma. Cette année, ça va être une grosse année cinématographique jeux vidéo. Je ne sais pas si vous êtes au courant, il y a une multitude de jeux vidéo qui vont être adaptés. On va commencer tout d'abord par Assassin's Creed, qui va sortir donc le 21 décembre au cinéma. Un film, donc Assassin's Creed, c'est un peu ce jeu un peu historique, hein, où vous incarnez donc un assassin qui se balade dans différentes époques, qui tue des gens, mais des méchants, hein, bien entendu, c'est des gentils assassins. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça, à première vue, un film Assassin's Creed? Est-ce que ça peut être intéressant ou pas du tout?
Oui, pourquoi pas, il y a beaucoup de films adaptés de jeux vidéo, ça peut être intéressant.
Vous avez confiance, vous, aux adaptations de films ou en jeux vidéo? Moi, perso, j'ai toujours un peu peur, hein, je vais pas vous mentir.
Bah, moi, tu me connais, j'ai tendance à boycotter les adaptations cinématographiques adaptées de romans, de comics, de jeux vidéo ou quoi que ce soit.
Genre World of Warcraft.
Peut-être à tort. Ça a l'air d'être une prouesse technique, un peu comme Final Fantasy à l'époque, donc je pense ne serait-ce que pour l'image, il faudra aller le voir.
Voilà, c'est ça, parce qu'il y a aussi Warcraft, comme je viens de le dire. On aura Angry Bird, le film, donc
incroyable.
Le jeu qui se déroule sur téléphone où vous tirez des petits oiseaux pour dégommer des cochons, je crois. Ils vont en faire un film.
J'ai déjà vu la bande-annonce quand je suis allé au cinéma. Je pense que c'est typiquement un film à ne pas aller voir.
Ah voilà,
moi,
ça dit les choses.
Moi, j'attends l'adaptation de Tetris au cinéma pour vraiment y aller.
Il serait capable de nous le sortir.
Ouais, ouais.
On va avoir du Tomb Raider aussi qui va revenir. On va avoir du Watch Dog, du Splinter Cell qui est en tournage en ce moment. On a quoi? Du Ratchet & Clank. On a du Resident Evil Final Chapter. Resident Evil. Tiens, toi qui es un grand fan de Resident Evil.
Pourquoi tu me regardes comme ça?
Non, mais je t'en regarde. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de cette série de films Resident Evil? Est-ce que tu les as déjà vus? Ou est-ce que tu les as dès le début boycottés?
Je les ai pas tous vus. Bien sûr, en tant que fan, j'ai regardé les premiers. Et j'ai été très déçu de l'adaptation, de ce qui faisait de la mythologie du film. Alors, ça reste des bons films si
d'accord,
tu les prends indépendamment des jeux, ça reste des bons films, c'est divertissant, mais quand t'es vraiment un fan de la mythologie Resident Evil, c'est pas possible, quoi.
Je suis d'accord avec toi, mais après je les ai pas tous vus, j'ai décroché assez vite, je crois que j'ai regardé jusqu'au troisième, et puis après, j'ai lâché, donc voilà. Et toi, Flo, ça t'inspire quoi?
Moi, j'aime bien Mila Jovovich.
Donc ça te pose pas de soucis, toi t'es refait, d'accord, ok, très bien. Bon bah écoutez, là il est bientôt 13h, je vois l'équipe du Petit Bazar là qui commence à s'agiter là. Les gars d'ailleurs, si vous voulez commencer à rentrer dans le studio, il n'y a pas de souci, vous pouvez venir. Nous on va vous laisser, alors rapidement on va vous rappeler que aujourd'hui il y a la Lyon e-sport qui se passe au Palais des Sports là de Lyon en ce moment, et c'est tout le week-end, c'est 8€ l'entrée. Pour tous les fans de League of Legends, c'est un gros moment. N'hésitez pas aussi à aller soutenir les indés. Il y a Games for Event qui est là, qui présente beaucoup de jeux indés réalisés dans la région lyonnaise. L'occasion pour vous de discuter avec tous les développeurs de jeux. Il faut savoir aussi donc qu'il y a une compétition donc autour de Hearthstone organisée par le Fest in Love Lyon. Voilà. Ça se passe dans le campus Innove, dans le 7e arrondissement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller dans ce genre de manifestation, ça fait plaisir aux organisateurs. Vous pouvez passer un bon moment. Et puis voilà. Bon, bah déjà, je vous remercie à vous, Flo, Greg, d'être venus à cette émission. C'était cool.
Ben merci à toi de nous accueillir.
Merci à vous, Omiditeur. Vous pouvez retrouver l'émission très très prochainement sur le podcast. Enfin, vous pourrez retrouver, pardon, le podcast très prochainement sur Facebook. Voilà, de l'ère du jeu. Vous pouvez aussi nous lâcher des commentaires, nous dire ce dont vous voulez entendre parler, ou si même vous voulez venir dans les studios discuter avec nous ou nous présenter vos projets, c'est avec grand plaisir. Ça se passe sur Facebook. Eh ben, écoutez, je pense qu'on a fait le tour de la chose. On va vous laisser passer un excellent week-end. Et puis, bah, à la semaine prochaine. Ciao, ciao.